BW. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, bonjour à toutes et à tous. Des expulsions, des hommes et des femmes perdus dans le millefeuille administratif allemand, d'autres sans titre de séjour, mais qui restent en Allemagne. La politique migratoire de retour et d'expulsion allemande est dans une crise profonde. C'est les conclusions d'un très long travail de la Fondation allemande pour la politique étrangère. On en parle avec l'une des auteurs de ce travail dans un instant. Et puis dans la seconde partie de ce magazine, direction la Saxe, dans l'est du pays, à Görlitz, ville connue pour ses bons scores de l'extrême droite aux élections. Là-bas, des jeunes se mobilisent pour plus d'ouverture et de tolérance. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Willkommen, bienvenue à toutes et à tous. Los geht's, c'est parti.
DW.
Politique allemande de retour et d'expulsion, 10 propositions pour sortir de la crise permanente. C'est le titre d'un rapport de plus de 60 pages que publie la DGAP, la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, la Fondation allemande pour la politique étrangère. Un rapport publié alors que le thème de l'immigration électrise souvent les débats en Allemagne. Et un rapport qui se concentre donc sur les décisions prises lorsque les autorités décident qu'une personne migrante ne peut rester dans la République fédérale. Un rapport fouillé, conclusion d'une trentaine d'interviews avec les acteurs de l'immigration, de visites et d'observations dans des centres d'accueil ou avec la police. Deux femmes ont travaillé près d'un an sur le sujet et l'une d'elles est avec nous aujourd'hui. Mona Lou Gudewijk, chercheuse à la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, la Fondation allemande pour la politique étrangère. Allô, bonjour.
Allô.
Alors, vous venez de publier ce rapport, on l'a dit. Pour en parler, on peut commencer peut-être par le constat dur que vous faites. Vous dites que la politique de retour et d'expulsion est dans une crise profonde. Pourquoi ?
Oui, la raison est double. Premièrement, regardons un peu les chiffres. Le nombre de personnes qui sont obligés de quitter le territoire allemand, soit parce que leur demande d'asile a été rejetée, soit parce que leur visa a expiré. Ce nombre augmente. Il a doublé depuis 2013 et en ce moment, il y a en Allemagne un quart de million de personnes qui sont légalement obligées de quitter le territoire. Mais de l'autre côté, si on regarde un peu le nombre de personnes qui quittent effectivement le territoire, ce nombre-là reste peu élevé. Une procédure de reconduite à la frontière sur deux doit être en fait annulée ou avortée. Et la deuxième raison, c'est moins sur la statistique, c'est qu'il y a un débat assez toxique autour du sujet en Allemagne et il n'y a pas beaucoup d'espace pour des voix modérées qui proposent une politique de compromis. Et là, c'est pourquoi on a identifié une crise.
Vous dites des expulsions qui ne se font pas, qui doivent être arrêtées. Comment ça se fait? Pourquoi?
Les raisons sont nombreuses et en fait, on ignore un peu les vraies raisons pourquoi les procédures doivent être annulées ou arrêter. Parfois, c'est parce que les gens n'ont pas de papier de voyage, alors peut-être le service local des étrangers voulait faire cette expulsion, mais les papiers de voyage ne sont pas arrivés à temps. Parfois, il y a des personnes qui se blessent juste le jour de la procédure et pour cela, ils doivent aller à l'hôpital. Et il y a des raisons multiples, mais les statistiques sont très, très vagues. Et pour ça, on ne peut pas vraiment identifier quelle est la raison principale pour ce très haut nombre de procédures échouées. Et un autre problème qu'il faut mentionner, si on parle des chiffres en Allemagne, c'est que 4 personnes sur 5 qui sont légalement obligées de quitter le territoire allemand sont quand même en même temps tolérées sur le territoire allemand. Ça s'appelle Duldung en allemand et ça veut dire que oui, ils n'ont pas un permis de résidence, mais en même temps, l'État affirme que pour le moment, une expulsion n'est pas possible parce que, par exemple, la personne est malade, elle ne peut pas voyager ou parce qu'encore, il n'y a pas les papiers d'identité ou pour d'autres raisons. Et avoir un si haut nombre de personnes dans cet état de Duldung qui est très précaire, c'est aussi très problématique parce que c'est compliqué pour la personne, c'est la précarité éternelle, il n'y a pas la chance d'intégration, mais de l'autre côté, c'est aussi compliqué pour l'État qui doit toujours confirmer ce statut ou cet état juridique qui est un peu entre le oui et le non.
Alors pour être clair, vous ne demandez pas l'expulsion de tout le monde, vous faites des constats neutres et proposez des solutions, on va en parler. Mais je reviens juste avant sur ce que vous appelez les problèmes structurels. Vous mettez en avant le fait que l'Allemagne, l'État fédéral, est responsable pour une partie de la procédure migratoire, mais que les Bundesländer, les régions sont aussi impliquées, les communes également. Vous dites que c'est donc un vrai problème structurel.
Oui, oui, c'est exactement ça. Si, prenons l'exemple d'une personne dont la demande d'asile est rejetée. C'est une administration fédérale, le BAMF, l'Office pour l'immigration et les réfugiés, qui prend la décision. Après, cette décision peut être validée par un tribunal d'administration. La personne va avoir peut-être cette option de quitter volontairement le pays. Donc, elle peut aller se renseigner avec un service de conseil sur les programmes de retour volontaire. Ce service peut être offert soit par l'État, soit par des organisations de la société civile. Puis, si la personne ne part pas, c'est les services des étrangers locaux qui organisent la reconduite à la frontière. Et le jour de la procédure, c'est d'abord la police du Bundesland en question qui va aller chercher la personne chez soi, mais à l'aéroport, on va transmettre la personne aux mains de la police fédérale parce que c'est eux qui sont responsables ou qui sont en charge d'escorter les personnes pendant les vols. Donc il y a vraiment une prolifération d'acteurs qui parfois, oui, aussi se font de la concurrence un peu.
Alors, on parle des problèmes depuis le début, là, mais vous faites dans le rapport, c'est une grande partie de ce rapport, 10 propositions pour améliorer les choses. Vous parlez de formation pour toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine, de plus de moyens financiers pour les institutions. Vous parlez aussi, vous venez de le dire, de publications avec des chiffres détaillés pour aider ceux qui décident ces politiques à faire des choix cohérents. Et puis, vous dites aussi qu'il faut revoir les programmes de retour. Pourquoi et comment?
Oui, comme j'ai dit, l'Allemagne fait déjà bien en ce qui concerne un peu la perspective de durabilité de ces programmes, mais il y a encore espace pour améliorer cela. Donc, du coup, premièrement, il faut vraiment se dire que la motivation financière ne va pas être la seule motivation pour une personne de quitter l'Allemagne. Du coup, il ne faut pas seulement donner de l'argent, mais aussi des perspectives, de l'aide matérielle, peut-être des outils ou une formation pour que la personne peut trouver un travail dans son pays d'origine. Vraiment, il faut travailler sur le lieu et trouver des emplois pour les personnes qui retournent. Et ce qui est aussi très important, c'est de vraiment faire des évaluations de ces programmes. Et là, c'est vraiment quelque chose où il faut suivre un peu plus les personnes après le départ de l'Allemagne. La politique du retour, ça ne doit pas se terminer à la frontière allemande. Il faut aussi faire le pas vers les pays d'origine.
On l'a dit, le débat s'est un petit peu passionné ces derniers mois, ces dernières années en Allemagne. Est-ce que c'est un changement de paradigme complet que vous proposez? Vous dites par exemple qu'on a développé les Anchor Centren, les centres où on regroupe des personnes migrantes et où il y a plusieurs administrations sur place pour pouvoir aller plus vite normalement dans les décisions si une personne a le droit de rester ou non. Vous dites finalement ces centres, après l'évaluation qu'on a pu en faire, c'est peut-être pas la meilleure solution, au contraire?
Oui, c'est ça. C'est le but ou l'objectif de ces centres, c'est d'accélérer la procédure d'asile. Et c'est vrai que là-bas, ça prend environ 2 mois comparé à la procédure hors des centres qui prend 3 mois. Mais cette accélération, c'est uniquement pour la première instance et parce que vraiment la majorité des personnes laissent valider leur décision d'asile par un tribunal. Les personnes restent quand même très longtemps dans ces centres ANCA. Et là, à long terme, le prix est vraiment assez haut parce que ça renforce l'isolation sociale. Il y a des événements, il y a la violence et aussi en ce moment, pendant les temps de la pandémie, on voit que dans ces logements concentrés, il y a aussi un risque augmenté d'infection avec le virus. Et du coup, nous, on croit que le prix est un peu trop haut pour l'accélération quand même pas trop efficace qu'on a vue.
C'est peut-être une question compliquée, mais quelle serait une politique de retour idéale selon vous qui fonctionne bien?
Bon, elle doit être une politique plutôt de compromis, je dirais. Là, on critique aussi un peu dans notre texte que le débat est si passionné et qu'il y a beaucoup de positions très extrêmes. Soit on dit qu'il faut à tout prix augmenter les chiffres, soit on dit aucune expulsion est digne, en fait, et il faut ne pas le faire du tout. Là, il faut retrouver un peu un langage modéré et discuter des solutions de compromis où il y a plusieurs instruments, mais on utilise vraiment ce qui est approprié pour le cas individuel.
Vous parlez de l'Allemagne, vous avez étudié ce qui se passe en Allemagne. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ce qui se passe ailleurs en Europe aussi? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient, des exemples qui pourraient être utiles à l'Allemagne ou des choses qui fonctionnent mieux ailleurs?
En fait, il y a aussi du mouvement, disons, dans la politique de retour européen. Par exemple, il y a une révision de la directive de la politique du retour qui est prévue depuis quelques années. Là où je crois que ce serait vraiment logique de travailler ensemble sur le niveau européen, c'est aussi la coopération avec les pays d'origine. Parce que là, parler avec une voix unie, ça peut aussi renforcer un peu la position de l'Europe. Et c'est aussi plus facile pour les pays d'origine de comprendre les entrées de l'Europe s'ils ne doivent pas parler à des délégations de 27 États membres individuels.
Et vous proposez aussi d'autres solutions dans votre rapport, une liste de 10 propositions précisément qui passent par des programmes d'évaluation, des politiques mises en place, de l'amélioration des programmes de retour pour ceux qui doivent quitter l'Allemagne ou encore une réforme structurelle des organisations impliquées dans cette politique migratoire. Des premiers contacts ont eu lieu avec le monde politique. On verra si votre travail est pris en compte dans les mois et les années à venir. Monalou Günevic, chercheuse à la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, la Fondation allemande pour la politique étrangère. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et on met les liens vers votre travail sur la page du podcast de Vue d'Allemagne. Bonne journée. Ich komme aus Karl-Marx-Stadt, je viens de Chemnitz, musique du groupe allemand Kraftklub, originaire donc de cette ville, Chemnitz. Alors Chemnitz, pourquoi maintenant? Eh bien parce que c'est une ville de Saxe, Bundesland à l'est de l'Allemagne, où l'on part maintenant, à l'est, toute à la frontière avec la Pologne, à Görlitz précisément, ville qui fait partie des fiefs du parti d'extrême droite, l'Alternative für Deutschland. Ville aussi qui fait partie des perdants de la réunification, déclin économique, chômage, un tiers des immeubles inoccupés. Le sentiment d'abandon, vous allez l'entendre, est là-bas omniprésent. Mais malgré ce contexte, des jeunes se mobilisent pour montrer un autre visage de Görlitz, une ville ouverte, créative et engagée. Reportage là-bas, signé Yannick Lasmatch.
En venant à Görlitz en train, on passe par un viaduc ferroviaire reliant l'Allemagne et la Pologne. Cette ville à l'extrémité de la Saxe se penche au bord de la Neisse qui serpente à travers d'un paysage calme et vallonné. En sortant de la gare, on se dirige tout droit vers le centre-ville, en passant par des vieilles rues pavées bordées de maisons datant du 19e siècle. Devant le théâtre municipal, on rencontre le jeune auteur Lukas Ritschel. À seulement 26 ans, il connaît un grand succès avec son best-seller, Mitter Faust in die Welt schlagen, frapper le monde avec son poing. L'histoire d'une jeunesse dans l'Allemagne post-RDR, vécue par deux frères dans un village fictif. Avec ses lunettes en écaille, sa barbe de 3 jours et ses Doc Martens, il affiche une image d'intellectuel. Après avoir grandi dans un village à 1 heure de Görlitz, il a décidé de rentrer dans sa région natale il y a 3 ans. Je suis venu à Görlitz il y a 3 ans, au début seulement pour les études. Et puis, je suis resté, parce qu'au fil de temps, j'ai vu le potentiel, la liberté d'action. On peut vraiment tenter des choses ici. La raison principale pour laquelle je suis resté, c'est que j'ai le sentiment d'utilité. Je peux encore apporter ma pierre à l'édifice dans cette ville encore en devenir. Et c'est ça qui en fait le charme. En ville, les stèles et ornements somptueux décorent aussi les façades. On trouve aussi des traces gothiques, baroques, mais aussi des vestiges de l'art nouveau et de la Renaissance. Ce n'est pas pour rien que de nombreuses stars ont déjà fréquenté Girlywood, comme disent les intimes, en référence au grand lieu de tournage aux États-Unis. Des films comme Grand Budapest Hotel de Wes Anderson ou Inglourious Basterds de Quentin Tarantino ont été tournés ici. Mais ce ne sont pas les seuls artistes à avoir leur place dans la ville. Comme un tiers des immeubles sont lignes coupées, ça laisse de la place, aussi aux artistes locaux.
Récemment, on a fondé une association pour l'art contemporain. Elle est ressortie du festival artistique Zukunftsvision, Vision du futur. Depuis 13 ans maintenant, le festival a toujours eu lieu dans une nouvelle maison, un bâtiment différent. Chaque année, la ville met à disposition un immeuble vacant qui héberge pendant une semaine des expositions d'art et de culture, de musique et de plein de choses différentes.
Pour un visiteur lambda, pas de quoi présager ici des résultats du parti d'extrême droite, l'Alternative für Deutschland. Ici, l'AfD perce depuis plusieurs années avec plus de 31% aux élections nationales de 2017 ainsi que lors des dernières européennes, et également 46% pour leurs candidats aux élections régionales de juin 2019. À l'Obermarkt, la place du marché, on retrouve Cindy Hittil devant l'ancien local de leur café associatif, le Café Hotspot. Cindy, qui a grandi à Görlitz, nous explique comment la ville a évolué. C'est en fait lié à l'RDA. Les gens qui vivaient en RDA avaient beaucoup moins de liberté. De nombreuses personnes âgées sont encore enfermées dans une pensée Est-Ouest. On le voit aussi aux dernières élections. Les jeunes électeurs ont moins voté en faveur de l'AfD. Dans leur cas, l'extrême droite n'a pas été aussi forte. Cela vient plutôt des personnes âgées.
Da war die AfD gar nicht so stark, ne? Das ist tatsächlich eher von den Älteren und die sind einfach unzufrieden.
Avec la chute du mur, la population renoue avec l'espoir, mais il sera très vite déçu. La propagande et les valeurs d'un socialisme radical qui ont endoctriné durant 40 ans n'ont plus cours aujourd'hui. Après la réunification en 1990, le fameux Treuhand Anstalt, l'organisme chargé de la privatisation des biens de la RDA, impose partout dans l'Allemagne de l'Est un système inconnu, le capitalisme. Les usines, notamment de tissage et de verre, qui pendant des années étaient complètement adaptées aux attentes de l'économie planifiée de ce pays dit communiste, ne peuvent pas résister au nouvel ordre économique venant d'un monde inconnu. Au fil des années, les entreprises ont fait faillite ou sont parties, comme les gens.
Il y a beaucoup de arbeitslose Menschen und dass die dann nicht zufrieden sind.
Il y a beaucoup de chômeurs ici et je peux imaginer qu'ils ne sont pas contents avec leur situation. Si vous n'avez pas assez d'argent pour faire partie de la société, c'est dur. Mais ce n'est pas la faute des réfugiés. Ils sont souvent blâmés, mais en fait, les gens cherchent juste un bouc émissaire.
Avec Till, un ami venu s'installer à Görlitz il y a 4 ans pour ses études, Cindy habite dans un squat. Aujourd'hui, ils organisent leur café hebdomadaire pour aider les nouveaux venus à avoir leur repère dans leur nouvelle ville. À travers de leur travail, ils sont souvent la cible d'agressions xénophobes.
Par exemple, où j'étais au café Hotspot, encore au Obermarkt, régulièrement, il y avait un rotze sur la vitre.
Lorsque le café Hotspot était encore sur l'Obermarkt, il y avait en fait de la morve sur le vitre tous les jours. Deux fois, les vitres ont été brisées et, dans notre squat, nous avons souvent des autocollants nazis et de la merde collée sur la porte.
Malgré ces expériences, ils ne se laissent pas abattre.
Avec nos projets, nous voulons aussi favoriser l'acceptation et la tolérance.
Pour cela, Cindy et ses amis utilisent tous les moyens, comme en juin l'an dernier. L'histoire a fait le tour du monde. Chaque année, autour de l'anniversaire d'Hitler, un grand festival néo-nazi se tient à cette période, à quelques kilomètres de Görlitz. Le Schild und Schwert, bouclier et épée. En 2019, avec les organisateurs de la contre-manifestation, le Festival de la Paix, Cindy a eu une idée.
On a eu une idée plutôt cool. On avait dit qu'on irait au supermarché et qu'on achèterait toute la bière. Nous l'avons fait, mais malheureusement, on n'a pas pu obtenir tout le stock.
Tout de même, 120 caisses de bière ont été achetées. Michael Kretschmer, le ministre-président de la Saxe, s'est dit très impressionné. De quoi motiver Cindy et ses amis de continuer à militer pour le vivre ensemble.
Niklas Mönch pour Vue d'Allemagne, merci à lui pour ce reportage, un reportage que vous retrouvez et pouvez partager depuis la médiathèque de la DW sur notre site. La semaine prochaine, Vue d'Allemagne prend un peu de vacances, vous retrouverez une rediffusion de votre magazine, mais on se retrouve bientôt pour des infos toutes fraîches. D'ici là, soyez prudents, alles Gute, portez-vous bien et à très bientôt. Auf Wiedersehen, tschüss.